Alors que l'avion à bord duquel se trouvait Luoji dépassait le littoral à quelque 10 000 mètres en contrebas, Wu Yu et Chang Beiyei se retrouvaient à nouveau côte à côte, le regard perdu sur le Tang inachevé. Dans le passé ou dans le futur, cet instant resterait comme celui où Luoji se trouverait à la distance la plus proche des deux militaires. Comme lors de leur précédente visite, l'énorme porte-avions baignait dans la faible lueur du soleil couchant. Les étincelles de soudure sur la coque ne semblaient pas aussi abondantes que la dernière fois, tandis que les lampes qui l'éclairaient avaient singulièrement baissé d'intensité. Et à cette heure, Wu Yu et Chang Beiyei n'appartenaient déjà plus à la marine. « J'ai entendu dire que le département général de l'armement envisageait d'interrompre le chantier », commença Chang Beiyei. « En quoi cela nous occupe-t-il ? » répondit froidement Wu Yu, dont les yeux abandonnèrent le vaisseau pour s'égarer dans les dernières lueurs du crépuscule. « Depuis que tu as rejoint la spatiale, tu as de moins en moins le moral. Tu dois certainement savoir pourquoi, toi qui peux si facilement lire dans mes pensées, parfois même plus clairement que moi-même. C'est souvent grâce à toi que je comprends ce que je souhaite vraiment. » Chang Beiyei se retourna et regarda Wu Yu droit dans les yeux. « Tu es affecté parce que tu prends part à une guerre dont tu crois l'issue inévitable. Tu jalouses la dernière génération de militaires qui serviront dans la spatiale et lutteront jusqu'à la fin, avant d'être inhumés dans l'espace avec leur flotte. Épuiser toute une vie pour une cause aussi désespérée, tu as du mal à le concevoir. As-tu un conseil à me donner ? Non, le fétichisme et le triomphalisme technologique sont enracinés trop profondément dans ton esprit. Je sais depuis le début que l'on ne pourra pas te changer. La seule alternative, c'est de s'efforcer de limiter les dommages que pourrait causer cette pensée sur ton travail. En ce qui me concerne, je suis de ceux qui croient qu'une victoire humaine n'est pas impossible. » À cet instant, Wu Yu jeta son masque froid et son regard rencontra celui de Chang Beiyei. « Beiyei, tu as toujours été quelqu'un de pragmatique, tu t'es opposé à la construction du Tang. Tu as à plusieurs reprises, lors de réunions officielles, exprimé tes réserves quant à la fondation de cette armée en haute mer. Tu considérais que ce projet était incompatible avec notre puissance nationale. Tu estimais que nos forces navales devaient demeurer dans les eaux côtières, sous la protection et le soutien de l'armée de terre. Une idée que les têtes brûlées nationalistes ont vulgairement qualifiée de stratégie de la tortue. Mais tu as insisté. Alors d'où te vient cette assurance soudaine d'une victoire dans cette guerre interstellaire ? Tu crois vraiment que des barques en bois peuvent torpiller un porte-avions ? Aux premières heures de la fondation de la République populaire, nos jeunes forces navales, tout juste fondées, ont réussi à vaincre les destroyers du Parti nationaliste. Et des années plus tôt, nos armées à cheval mettaient en déroute des colonnes de tanks. Tu ne peux quand même pas sérieusement faire de ces légendes une théorie militaire commune et universelle. Dans cette guerre, la civilisation terrienne n'aura pas besoin d'une théorie commune et universelle. Une exception suffira, affirma Chang Beiyei en pointant Wu Yu du doigt. Wu Yu arbora un sourire moqueur. « J'aimerais bien savoir comment tu comptes réaliser cette exception. »« Naturellement, je n'y entends rien en guerre spatiale, mais pour reprendre la métaphore de la barque qui affronte un porte-avions, eh bien, je crois qu'avec du courage, de la débrouillardise et de la confiance dans la victoire, la première peut couler le second. Un commando de plongeurs est acheminé sur la barque et se place en embuscade quelque part sur le parcours du porte-avions. Lorsque le vaisseau ennemi se retrouve à une certaine distance, les plongeurs s'immergent dans l'eau et la barque s'éloigne. Lorsque le porte-avions passe juste au-dessus du commando, celui-ci pose des mines sous la coque. Bien sûr, c'est beaucoup plus difficile à faire qu'à dire, mais ce n'est pas impossible. » Wu Yu hocha la tête. « Pourquoi pas ? Certains ont essayé. Les Britanniques, par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, pour couler le Tirpitz. Mais eux ont envoyé des mini sous-marins. Dans les années 1980, pendant la guerre des Malouines, un commando secret de nageurs de combat a emporté des mines limpettes italiennes, avec pour projet de saboter des navires militaires britanniques amarrés au port de Gibraltar. Toi et moi, nous savons comment ça s'est terminé. Mais nous n'avons pas que des petites barques en bois. Une bombe nucléaire de 1 000 ou 2 000 tonnes peut parfaitement être assez petite pour qu'un ou deux plongeurs l'emportent sous l'eau, Et une fois posée sous la coque du plus grand de tous les porte-avions existants, elle ne se contentera pas de le couler, elle le fera voler en morceaux. Tu as parfois beaucoup d'imagination, dit Wu Yu en riant. Ce que j'ai, c'est foi dans la victoire. Zhang Beiyei dirigea son regard vers le Tang. Au loin, les étincelles de soudure scintillaient dans ses pupilles comme deux petites flammes. Wu Yu regarda lui aussi le Tang, mais le vaisseau fit naître une nouvelle vision dans son esprit. Il n'était plus cette forteresse antique en ruine, mais une falaise, plus ancienne encore, parcourue d'innombrables crevasses sans fond, dans lesquelles les flammèches de soudure étaient comme des torches vacillantes. Après le décollage de l'avion et jusqu'à la fin de leur dîner, Luo Ji n'interrogea pas Shi Xiang sur leur destination ou sur ce qui se passait réellement. S'il le savait et s'il pouvait le lui dire, il l'aurait fait depuis longtemps déjà. À un moment, Luo Ji détacha sa ceinture de sécurité et s'approcha du hublot pour jeter un coup d'œil à l'extérieur. Il avait beau savoir qu'il ne distinguerait rien dans l'obscurité, Shi Xiang s'appliqua tout de même à le suivre et à le tirer du hublot en disant qu'il n'y avait rien à voir. « Papotons un moment, puis allons-nous coucher. Qu'est-ce que vous en dites ?» proposa Shi Xiang en sortant une cigarette, mais il se rappela aussitôt qu'il était dans un avion et la remit dans son paquet. « Nous coucher ? Le vol sera donc long ? Peu importe, c'est un avion avec des lits, on va quand même en profiter. Votre mission consiste seulement à m'escorter jusqu'à destination, c'est ça ? De quoi vous vous plaignez ? C'est nous qui allons devoir rentrer ? Rit Shi Xiang en grimaçant, fier de sa boutade. Il semblait avoir un faible pour l'humour sadique, mais il continua sur un ton un peu plus sérieux. « Je n'en sais pas beaucoup plus que vous sur notre trajet, et ce ne serait de toute façon pas à moi de vous en dire davantage, mais ne vous inquiétez pas, quelqu'un vous expliquera tout une fois sur place. » J'y réfléchis depuis un bon moment et je ne vois qu'une explication possible. « Dites toujours et nous verrons si vous pensez à la même chose que moi. » C'était une fille ordinaire. Ce qui veut donc nécessairement dire que ses relations sociales ou familiales avaient quelque chose de spécial. Luo Ji ne savait rien de sa famille, comme de celle de toutes les filles qu'il avait connues avant elle. Même si elle lui en avait parlé, il éprouvait si peu d'intérêt pour le sujet qu'il avait tout oublié. « Qui ça ? Ah, votre copine ! Ne parlons plus d'elle ! De toute façon, vous vous en fichez. Mais après tout... Pourquoi pas, avez-vous essayé de faire correspondre son nom ou son visage avec des célébrités ? Luo Ji se creusa un moment les méninges, mais ne parvint à la faire correspondre avec personne. « Frangin, est-ce que vous savez bluffer ?» lui demanda Shi Xiang. À cette question, Luo Ji remarqua une constante. Quand le commissaire plaisantait, il l'appelait « vieux frère », mais quand il était plus sérieux, il lui donnait du « frangin ». « Aurais-je besoin de bluffer ?»« Bien sûr. Bon, je vais vous apprendre. Naturellement, je ne suis pas un expert en la matière. Mon boulot, c'est plutôt d'éviter ou de déceler les coups de bluff. Je vais vous donner quelques techniques que vous pourrez adopter lors d'un interrogatoire. Ça vous sera plus facile le jour où vous en aurez besoin. Je ne vais vous donner que les techniques les plus basiques et les plus courantes, ça va de soi. Pour ce qui est plus complexe, ça demanderait trop de temps. » Commençons par une des plus élégantes et aussi une des plus faciles. Allongez la liste. Elle consiste à dresser une liste de questions relatives à votre enquête. Plus il y en a, mieux c'est. Il faut ensuite faire en sorte de toutes les poser, une par une, même celles qui ont l'air le plus éloignées, et cacher la question clé dans le tas, puis enregistrer les réponses du suspect. Et après, recommencer depuis le début, toujours en enregistrant les réponses. On peut répéter la procédure autant de fois qu'on le juge nécessaire. Au moment de comparer les réponses enregistrées, si le suspect a menti, les réponses aux questions ne seront pas tout à fait les mêmes. Ne croyez pas que ce soit si facile. Ceux qui n'ont jamais suivi de formation en contre-espionnage n'y arrivent pas. Pour contrer cette technique, le plus sûr, c'est de garder le silence. Tout en parlant, Shi Xiang ne put s'empêcher de sortir à nouveau une cigarette. Mais se rappelant que c'était interdit, il la reposa. « Demandez, c'est un avion spécial, on doit pouvoir fumer ?» lui souffla Luo Ji. Shi Xiang était lancé dans son monologue et s'agaça un peu d'être coupé par Luo Ji. Ce dernier constata avec surprise qu'il avait l'air très sérieux, ou bien alors il avait un étrange sens de l'humour. Shi Xiang pressa le bouton du microphone rouge à côté du canapé. Et Xiao Chang lui confirma qu'il pouvait faire comme bon lui semblait. Tous deux allumèrent une cigarette. « La suivante est moitié élégante, moitié brutale. Vous arrivez à sortir le cendrier ? Comme ça ? Tirez, oui. Cette technique, c'est celle du visage noir et du visage blanc. L'interrogatoire nécessite la coordination de plusieurs personnes et est légèrement plus complexe. Tout d'abord, ce sont aux visages noirs, aux méchants flics, d'entrer en scène. La plupart du temps, ils sont plus de deux. Ils vous traitent avec agressivité. Cela peut être verbal ou bien physique. L'essentiel est d'être brutal. Ça fait partie de la stratégie. Non seulement ils vous font peur, mais plus important encore, ils font naître en vous un sentiment de solitude. Comme si vous étiez seul au monde et traqué par une meute de loups affamés. C'est le moment où intervient le visage blanc. Le gentil flic. Il est forcément seul et a forcément un regard bienveillant. Il met un terme à l'agression de ses collègues, leur dit que vous êtes un citoyen comme les autres, avec des droits, et qu'ils n'ont pas à vous traiter comme ça, bon sang. Les visages noirs répliquent en disant au visage blanc de foutre le camp et de leur laisser faire leur boulot. Mais le visage blanc insiste en disant qu'ils n'ont pas le droit d'agir ainsi. Les visages noirs lui rétorquent qu'ils savaient depuis le début qu'ils n'étaient pas faits pour ce job et qu'il ferait mieux de trouver autre chose. Le visage blanc fait barrage avec son corps pour vous protéger et balance qu'il protégera vos droits, qu'il protégera la loi et la justice, coûte que coûte. Les visages noirs lui promettent qu'il ne paiera rien pour attendre, qu'il fera moins le malin le lendemain. Puis ils s'en vont en grommelant. Il ne reste plus que vous deux. Le visage blanc essuie votre sueur et votre sang. Il vous dit que vous n'avez rien à craindre, qu'ils n'oseront rien tenter tant qu'il sera là et qu'il veillera à ce que vos droits soient respectés. Il ajoute que si vous n'avez pas envie de parler, vous êtes en droit de garder le silence. La suite, vous la devinez, il devient le seul être au monde capable de vous comprendre et, après encore quelques étapes de séduction, vous ne restez pas silencieux bien longtemps. Cette technique est la plus efficace quand il s'agit d'interroger les intellos, mais, contrairement à la technique de la liste, elle perd toute efficacité si le suspect la connaît. Bien sûr, les techniques dont je viens de vous parler s'utilisent rarement de façon exclusive. Un bon interrogatoire, c'est un chantier, une combinaison d'un grand nombre de techniques. Shi Xiang paraissait transporté par l'enthousiasme. Il donnait presque l'impression de vouloir décrocher sa ceinture pour se lever. Mais en l'écoutant, Luo Ji sombrait dans un gouffre glacé. Il était saisi de désespoir et de crainte. Shi Xiang s'en rendit compte et changea de conversation. « Bon, ne parlons plus d'interrogatoire, même si vous aurez peut-être à utiliser ces petits trucs dans l'avenir. Je comprends que ce ne soit pas facile à accepter pour l'instant. Et puis je voulais vous apprendre à mentir. Soyez vigilant sur un point. Le vrai bluffeur, c'est celui qui se dissimule et ne s'étale pas. Ce n'est pas comme dans les films. » Les futés, les vrais, ce ne sont pas ces gars qui passent toute la journée dans l'ombre à prendre la pose, ce sont ceux qui ne montrent jamais qu'ils en ont dans la cervelle. Quand on les observe, ils ont l'air insouciants et conciliants, d'autres ont l'air mièvres ou vulgaires, d'autres spontanés et désinvoltes. La clé, c'est que les autres ne vous prennent pas au sérieux, qu'ils vous traitent avec mépris. Que vous ne soyez qu'une minuscule contrariété, que vous soyez aussi dispensable qu'un balai dans un coin de pièce. Le summum, c'est quand ils ne remarquent même plus votre présence, qu'ils font comme si vous n'existiez pas jusqu'à cet instant où, avant de mourir de votre main, ils sentent un arrière-goût désagréable.
Aurais-je un jour la nécessité ou l'opportunité de devenir ce genre de personne ? L'interrompit enfin Luo Ji.
C'est toujours pareil, je n'en sais pas beaucoup plus que vous, mais j'ai un pressentiment. Vous aurez besoin de devenir quelqu'un comme ça, Frangin. Tout ce que je vous ai dit vous sera utile.
Shi Xiang s'enthousiasmait soudain de nouveau. Il agrippait d'une main l'épaule de Luo Ji et la serrait fermement, allant jusqu'à lui faire mal. Ils se turent, regardant les volutes de leurs cigarettes s'élever dans la cabine avant de disparaître, absorbés par les grilles d'aération du plafond.
Laissez tomber, allons nous coucher.
Dit Shi Xiang en écrasant son mégot dans le cendrier. Puis il sourit et secoua la tête.
« Tout ce que je vous raconte,
Vous croyez peut-être que ce sont des blagues, mais ne vous moquez pas trop. Le moment venu, vous repenserez à ce que je vous ai dit. » Ils entrèrent dans la chambre à coucher. Luoji enleva son gilet pare-balles et se faufila dans son sac de couchage. Jixiang l'aida à attacher correctement le sac au lit à l'aide de la ceinture de sécurité et posa un petit bocal sur la table de chevet. « Somnifère, prenez-en si vous avez du mal à trouver le sommeil. J'ai demandé de l'alcool, mais il n'en avait pas. » Jixiang rappela ensuite à Luoji de prévenir le chef de cabine s'il comptait descendre de son lit. Puis il s'apprêta à sortir. « Commissaire Shi !» l'appela Luoji. Sur le palier de la porte, Jixiang tourna la tête. « Je ne suis déjà plus flic. Aucun flic ne participe à tout ça. Tout le monde m'appelle Da Shi. » « Entendu, Da Shi. Pendant que nous discutions tout à l'heure, j'ai particulièrement fait attention à l'une de vos phrases, ou bien disons à une de vos réactions. Quand j'ai parlé de la fille, vous ne vous êtes plus souvenu tout de suite de qui je parlais. Elle n'a donc aucune importance dans l'affaire qui me concerne ?»« Vous êtes l'un des hommes les plus flegmatiques que j'ai jamais rencontrés. Mon flegme vient de ce que je me fiche des conventions sociales. Rien dans ce monde n'a d'importance à mes yeux. Quoi qu'il en soit, faire preuve d'un tel calme dans un moment comme ça, je peux dire que je ne l'avais jamais vu. Oubliez ce que je vous ai dit, je suis comme ça, j'aime bien raconter ma vie. Vous cherchiez juste à attirer mon attention pour que votre mission se déroule sans encombre. Excusez-moi si vous vous êtes fait des idées. Alors dans quelle direction pensez-vous que je doive orienter mes pensées maintenant ?
Croyez en mon expérience, n'importe quelle direction vous mènera dans le mur. Vous devriez simplement essayer de dormir. »
Jixiang quitta la chambre. Après qu'il eut refermé la porte, la pièce se retrouva dans l'obscurité, à l'exception de la petite lampe rouge en tête de lit. Le bruit de fond du bourdonnement des moteurs réapparut à cet instant, omniprésent, comme si seul un mur séparait la chambre d'un ciel nocturne infini en train de fredonner. Un moment passa et Luoji se dit que tout n'était pas qu'une illusion. Quelque chose dont le bruit semblait bel et bien avoir une origine extérieure à l'appareil. Il déboucla son sac de couchage et s'en extirpa. Il poussa le rideau du hublot situé en tête de lit. Dehors, un océan de nuages avait submergé le ciel et scintillait d'argent sous le clair de lune. Très vite, Luoji s'aperçut qu'au sommet de cette mer nébuleuse, quelque chose d'autre chatoyait sous cette lueur argentée. Quatre lignes droites qui se détachaient singulièrement de la voûte nocturne. Elles s'allongeaient à la même vitesse que celle de l'avion, leur queue se fondant dans le ciel, comme quatre épées argentées filant sur la mer de nuages. Luoji dirigea son regard vers les têtes de ces lignes scintillantes et remarqua qu'elles étaient tirées par des objets à l'éclat métallique. Quatre avions de chasse. Il n'était pas dur d'imaginer que quatre engins du même type se trouvaient de l'autre côté de l'appareil. Luoji referma le rideau et retourna dans son sac de couchage. Il ferma les yeux et s'efforça de se détendre. Il ne voulait pas dormir, mais se réveiller de ce songe. Il faisait nuit noire et la réunion de l'armée spatiale n'était toujours pas terminée. Chang Beiyei écarta le carnet et les documents qui étaient étalés devant lui sur la table et se leva. Il balaya du regard les mines fatiguées des officiers, puis se tourna vers Chang Weizi. « Amiral, avant de commencer mon rapport, je souhaiterais pouvoir exprimer mon opinion. Je crois que l'état-major ne porte pas assez de considération au travail idéologique et politique. J'en veux pour exemple que dans cette réunion, le département politique est le dernier des six départements de la spatiale à présenter son rapport. « Je le concède, » dit Chang Weizi en hochant la tête. « Les commissaires politiques n'ont pas encore été nommés et c'est pour l'heure à moi qu'il revient de superviser cette tâche. Maintenant que le travail vient enfin de commencer, il m'est difficile d'y accorder toute l'attention que je souhaiterais. Nous comptons sur vous et vos camarades pour l'essentiel de ces missions. Amiral, je crois que nous sommes dans une situation dangereuse. » Ces paroles piquèrent l'attention de quelques officiers. Chang Beiyei poursuivit. « J'utilise des termes forts, que l'amiral veuille bien me pardonner. La réunion a duré toute la journée et chacun de nous est fatigué. Personne ne m'écouterait si je n'étais pas direct. » Il y eut quelques rires, mais la plupart des participants étaient encore embrumés de fatigue. Et plus grave encore, je suis très inquiet. La disparité dans l'équilibre des forces au cœur de la guerre à laquelle nous sommes confrontés n'a eu aucun précédent dans toute l'histoire de l'humanité. Aussi, je crois que durant une longue période de temps, le principal danger auquel devra faire face l'armée spatiale sera le défaitisme. Cette menace ne doit pas être sous-estimée. La propagation de cette idéologie n'aura pas comme seule conséquence d'éroder le moral des troupes, elle conduira à l'effondrement total de la puissance militaire spatiale. Je partage votre constat. Chang Weizi hocha une nouvelle fois la tête. Le défaitisme est à l'heure actuelle notre plus grand ennemi. C'est une tendance que la Commission militaire centrale prend très au sérieux. C'est pourquoi la mission dont le département politique a la charge est primordiale. Sitôt les unités de base de l'armée spatiale formées, ce travail deviendra plus complexe et difficile à mener. Chang Beiyei feuilleta son carnet de notes. Je vais maintenant présenter notre rapport. Depuis la création de l'armée spatiale, en ce qui concerne spécifiquement le travail d'idéologie politique, notre mission principale a été d'enquêter sur le moral général des troupes. Étant donné le nombre pour l'instant limité du personnel de notre secteur, les restrictions administratives et les imperfections institutionnelles, cette enquête a principalement été conduite par entretien et discussions privées, ainsi que grâce à la création d'un forum spécialisé sur notre réseau informatique interne. Les résultats qui ressortent de notre enquête sont alarmants. Le défaitisme est extrêmement répandu et a tendance à se propager à grande échelle chez une partie non négligeable de camarades. L'ennemi inspire la terreur et un manque de foi manifeste dans l'issue future du conflit. Les racines de ce défaitisme sont principalement à trouver dans la confiance aveugle faite à la technologie et dans le mépris ou le manque de considération des effets que peuvent avoir l'esprit et l'initiative individuelle dans un conflit. C'est un prolongement et une évolution de la théorie du triomphalisme technologique et de celle de la prééminence de l'armement sur les hommes qui prospère depuis plusieurs années déjà au sein des troupes. Cette tendance est particulièrement remarquable chez les officiers les plus qualifiés. Le défaitisme au sein des troupes se manifeste principalement sous les formes suivantes. Premièrement, un manque d'ardeur. Ceux qui considèrent leur engagement dans l'armée spatiale comme un travail ordinaire. Même s'ils mettent un point d'honneur à s'acquitter de leurs tâches avec sérieux et responsabilité, ils manquent d'enthousiasme et de sens du devoir, et doutent du sens ultime de leur travail. Deuxièmement, une attente passive. Ceux qui sont persuadés que l'issue de la guerre dépendra des scientifiques ou des ingénieurs. Ils croient que tant que les sciences fondamentales ou les recherches technologiques n'auront pas fait de grandes avancées, la spatiale ne sera qu'une coquille vide. Par conséquent, ils ne saisissent pas très bien l'importance de leur mission présente et se satisfont de leurs tâches routinières de formation militaire, manquant cruellement d'esprit d'initiative. Troisièmement, des fantasmes irréalistes. Ceux qui exigent de pouvoir profiter de la technologie d'hibernation pour traverser 4 siècles et prendre part à l'ultime bataille. Un certain nombre de jeunes camarades ont déjà fait part de ce souhait. L'un d'entre eux m'a même transmis un formulaire de demande officielle. En surface, cela peut sembler une attitude enthousiaste qui équivaut à vouloir se retrouver en première ligne de la bataille, mais en réalité c'est une autre manifestation du défaitisme, en cela qu'elle révèle un manque de confiance dans la victoire et un doute concernant le sens des missions actuelles. L'honneur d'un soldat devient alors le seul pilier du travail et de l'existence. Quatrièmement, l'exact contraire de l'attitude précédente. Ceux qui commencent à mettre en doute la conception de l'honneur, considérant que le code moral militaire traditionnel ne convient déjà plus à cette guerre, et que se battre jusqu'à la fin n'a aucun sens. Ceux-là estiment que l'honneur militaire n'existe que lorsque quelqu'un est en mesure d'en être le témoin. Cependant, une fois la guerre perdue, il ne restera plus aucun humain dans l'univers, et cet honneur aura perdu tout son sens. Si une minorité seulement partage pour l'instant cette idée, cette idéologie qui équivaut à dénier toute valeur aux forces spatiales est particulièrement nocive. À ces mots, Chang Beiyei regarda l'assemblée et nota que si ses propos avaient certes suscité une certaine attention, il n'avait pas réussi à dissiper la lassitude générale qui imprégnait encore les lieux. Il était néanmoins confiant dans le fait que ce qu'il allait raconter ensuite renverserait la situation.
Permettez à présent que je prenne un exemple concret. Ce défaitisme s'exprime de façon très typique chez l'un de nos camarades ici présents. Je veux parler du colonel Wu Yu.
Chang Beiyei pointa Wu Yu, assis à l'autre bout de la table. L'inattention de l'assemblée cessa aussitôt. Les participants furent aux aguets. Ils dévisagèrent avec anxiété Chang Beiyei, puis Wu Yu. Ce dernier paraissait impassible et son regard tranquille était dirigé vers son camarade.
Le colonel Wu Yu et moi-même avons par le passé coopéré à plusieurs reprises au sein de la marine. Nous nous comprenons très bien. Il a ce que j'appelle un profond complexe technologique. C'est un technicien, ou bien plutôt un ingénieur, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, mais malheureusement dans le cadre de la réflexion militaire, il accorde une importance trop grande à la technologie. Bien qu'il ne l'ait jamais dit clairement, il a inconsciemment toujours considéré qu'une technologie avancée était le principal, voire le seul, facteur déterminant d'une victoire, négligeant du même coup le rôle que peuvent jouer les individus dans le cours d'une guerre. Il a en particulier une connaissance insuffisante des avantages singuliers de notre armée qui se sont développés durant les vicissitudes de son histoire. Au moment même où il a été mis au courant de la crise trisolarienne, il a perdu toute confiance dans l'avenir, et ce désespoir n'a fait que croître depuis qu'il a rejoint les rangs de l'armée spatiale. Les sentiments défaitistes du camarade Wu Yu sont si pesants, si ancrés, que tout espoir de lui redonner du courage est vain. Des mesures fortes doivent être prises le plus tôt possible pour contenir la propagation du défaitisme au sein des troupes. Par conséquent, j'estime que le camarade Wu Yu n'est déjà plus apte à continuer son travail dans les forces spatiales.
Tous les regards se portèrent sur Wu Yu, qui regardait maintenant l'insigne de la spatiale sur le képi qu'il avait posé sur le bureau. Il était toujours aussi calme. Pendant tout le temps où il avait pris la parole, Chang Beiyei n'avait pas regardé une seule fois dans la direction de Wu Yu. Il poursuivit.
« Que l'amiral, le camarade Wu Yu et tout le monde ici me comprennent bien. Si je dis cela, c'est uniquement parce que je me préoccupe du moral des troupes. Naturellement, j'espère pouvoir avoir un face-à-face public et sincère avec le camarade Wu Yu. »
Ce dernier leva la main pour demander la parole. Chang Weizi la lui donna d'un hochement de tête.
« Ce que vient de dire le camarade Chang Beiyei à propos de mon état mental est exact. Je reconnais aussi sa conclusion. Je ne suis pas apte à continuer à servir au sein des forces spatiales. Je m'en remets aux ordres de l'organisation. »
L'atmosphère de la pièce se tendit. Certains officiers regardèrent le carnet de notes qui se trouvait devant Chang Beiyei, ne pouvant s'empêcher d'essayer de deviner si des informations les concernant y étaient consignées. Un senior colonel de l'armée de l'air se leva et affirma
« Camarade Chang Beiyei, c'est une réunion de travail ordinaire. Vous devriez vous en tenir à en référer à l'organisation par les voies habituelles. Est-ce bien convenable de le faire ici en public ?»
Ces paroles furent aussitôt suivies d'un concert d'approbation de la part de nombreux officiers.
« Je suis conscient que mes paroles sont contraires aux principes de l'organisation et je suis prêt à en assumer l'entière responsabilité. Cependant, je crois que quelle que soit la manière, il était nécessaire de vous faire prendre conscience de la gravité de la situation présente. » rétorqua Chang Beiyei.
Chang Weizi leva le bras pour prévenir d'autres prises de parole.
« Avant toute chose, il faut reconnaître au camarade Chang Beiyei son sens de la responsabilité et de l'urgence. La propagation du défaitisme au sein de nos troupes est une réalité avérée, à laquelle nous devons faire face de façon rationnelle. Tant qu'il existera un écart technologique entre nous et l'ennemi, le défaitisme ne disparaîtra pas. Ce problème ne sera pas résolu grâce aux méthodes simples que nous avions l'habitude d'utiliser. C'est un travail minutieux et qui doit être engagé sur le long terme. Il nécessite beaucoup d'échanges et de communications. En cela, je suis d'accord avec ce que vient d'évoquer notre camarade. Les problèmes liés à l'idéologie d'un individu doivent avant tout être abordés avec des échanges et de la communication. S'il s'avère nécessaire d'établir un rapport, il devra être effectué par l'intermédiaire des canaux habituels de l'organisation. »
Tous les officiers présents lâchèrent un soupir de soulagement. Durant cette réunion, au moins, Chang Beiyei n'aurait pas évoqué leur nom.